Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. On est ensemble jusqu'à 22h. Quelle joie! Et vous pouvez réagir dans cette émission. Sarah attend vos appels au 3210 sur RTL.fr et puis sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL.
Bonsoir Thomas, salut les curieux.
Je ne vous ai pas dit bonsoir, pour dire ça fait 2-3 heures qu'on prépare
oui,
l'émission.
Ça, on ne peut pas faire semblant tous les soirs quand
même. Ça va bien?
Ça va formidablement bien. Très beau programme ce soir à l'occasion de l'élection présidentielle américaine. On va se passionner pour la vie des First Lady. Martha Washington, la toute première mère de la nation. Eleanor Roosevelt, femme libre, mais aussi Mary Lincoln, la fashion victim.
Ah oui, déjà.
Pas forcément. Elle a tout redécoré et s'est complètement réhabillée à très grands frais. Des destins incroyables.
Et puis on va grimper à bord d'une voiture devenue culte, la Peugeot 404. Elle symbolise l'insouciance, le progrès des années 60. Et puis, comme la télé quelques années plus tard, elle passe à la couleur tango ou bleu turquoise. Vous pourrez choisir. Allez, tout de suite, l'art de retourner sa veste.
RTL.
Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste.
Retourner sa veste sans... changer totalement d'avis ou de position.
La curiosité est un vilain défaut.
Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà, avec Jacques Ducron et le dictionnaire, pour être quand même bien sûr de la définition, on lance le premier thème de la curiosité ce soir. Bonsoir Bruno Fillini.
Bonsoir.
On est très heureux de vous retrouver dans notre studio rouge. Vous êtes l'un de nos sociétaires,
historien, vous avez mis une veste,
maître de conférence à Sciences Po, toujours, il faut regarder sur RTL.fr.
Toujours très chic.
Toujours
je
très chic.
Ne retourne pas, vous voyez, je vous suis fidèle.
Jamais.
Ben oui, vous êtes avec nous parce que à droite comme à gauche, c'est la période des primaires, des élections, des alliances et donc des défections. Et grâce à vous, on va alors plonger dans l'histoire pour voir comment on retourne sa veste. Les candidats actuels, leur soutien, ils n'ont rien inventé. Ça démarre quand? Ça démarre avec la Révolution, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, parce que bien sûr, des trahisons, des changements de camp, il y en a toujours eu. Autant des condottières, si on était mécontent du roi qu'on servait, eh bien, on retournait ses armes, et on changeait de camp, même au milieu de la bataille, ça s'est vu. Simplement, à partir de 1789, ce ne sont plus seulement des chefs de guerre, des chefs de parti ou des courtisans qui s'affrontent, ce sont des élus.
Oui.
Ce sont des personnages qui puisent leur légitimité dans l'élection, qui ont été désignés par la nation, par des citoyens, pour exprimer une opinion. Alors évidemment, s'ils changent d'opinion en cours de route, ça fait un petit peu désordre.
Ces citoyens, ils demandent de la cohérence en quelque sorte.
Alors, les citoyens demandent généralement de la cohérence et ne se rendent pas toujours compte qu'eux-mêmes, en tant que citoyens, ont peut-être un petit peu évolué aussi au fil des années. Hein. La première girouette, c'est peut-être l'électeur. Mais, puis il y a le poids des circonstances, il y a les revirements qu'on n'a pas vu venir. Pour de multiples raisons, bonnes ou mauvaises, notre histoire a été faite par quelques individus immuables, mais un grand nombre de responsables politiques qui se sont montrés, je dirais, d'une grande plasticité, d'une grande inventivité, y compris pour justifier leurs revirements.
Et on a hâte de les connaître. Justement, Bruno Fillini, vous publiez « L'art de retourner sa veste ». C'est à la librairie Vibert. C'est une galerie de portraits où l'on va croiser Mirabeau, Victor Hugo, Jules Verne, mais aussi un député hors du commun. C'est le chanoine Félix Kir, qui, avant d'être élu, c'était quoi? Un curé de choc, c'est ça?
Oui, un curé de combat, un curé de choc. Alors, il faut savoir que c'est un homme qui a une carrière très longue, hein, puisqu'il a été député jusqu'à l'âge de 92 ans, maire de Dijon jusqu'à l'âge de 93 ans. Donc, il est né en 1876. Autant dire qu'il a connu toutes les bagarres de la Troisième République, et à l'époque où, entre cléricaux et anticléricaux, c'était parfois plus que tendu. C'était très viril. Et donc, il a fait partie de ces curés qui sont allés vers le peuple. Il était républicain, c'était pas un monarchiste. Hein. Il était républicain, il était démocrate, mais évidemment croyant et défendant l'Église. Et à partir de là, il est allé se frotter aux syndicalistes, aux militants ouvriers, aux militants radicaux, aux paysans. Il a eu des... comment dirais-je, il a participé à des réunions contradictoires qui étaient parfois assez musclées.
Parce qu'il était curieux.
Parce qu'il était curieux, oui, parce qu'il aimait bien la bagarre. C'est un drôle de curé.
D'abord, c'est celui qui a inventé, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais la boisson, l'apéritif, le kir.
Vin blanc cassis. Lorsque vous commandez un kir dans un bar, ça fait effectivement référence directement à son nom. Bien sûr, le blanc cassis existait bien avant lui. Mais il avait un certain génie de la publicité. Et lorsqu'il est devenu donc vraiment la figure numéro un de Dijon, et de la Côte d'Or, eh bien évidemment, il a donné son nom à cet apéritif qui n'en avait pas. Donc le blanc cassis est devenu kir, et en fait, il a même donné son nom sur un papier qu'il a signé à en tête de l'Assemblée nationale. Et de nombreuses années après sa mort, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre du kir, puisque plusieurs maisons, dont je ne donnerai pas les noms, se sont disputées pour savoir si elles avaient le droit ou non d'utiliser cette appellation.
Alors on va comprendre, Bruno Fulini, pourquoi il mérite d'être parmi ceux qui maîtrise à la perfection l'art de retourner leur veste. D'un mot pour comprendre le personnage, à ceux qui doutaient de l'existence de Dieu, voilà ce qu'il disait. Imaginons la conversation. Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. Et mon cul, tu ne l'as jamais vu, et pourtant il existe. Voilà, c'était ça aussi le chanoine Kir.
Il avait de l'argument.
Ce genre de bonhomme, il était, voilà, il a été donc, il a fait pas le coup de poing, mais en tout cas, il allait à la rencontre des anticléricaux, des laïcars, etc., etc. Et pourtant, un beau jour, il a eu besoin d'eux, c'est ça ?
C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce chanoine qui arrive à l'âge de la retraite, qui aurait voulu faire une carrière politique, mais son évêque s'y opposait. Mmh. Et puis, il a 64 ans quand le monde s'effondre. On est en 1940, les Allemands arrivent, la municipalité de Dijon s'est repliée, et donc il va prendre les commandes de son propre chef du palais des ducs de Bourgogne, qui est la mairie de Dijon. Et à partir de là, il va devenir l'homme fort de la ville. Il va s'imposer comme interlocuteur des Allemands. Au début, il est plutôt maréchaliste, pétainiste, mais il est très patriote en même temps. Et en particulier, il va transformer la mairie en une sorte de fabrique de faux papiers. Ce qui fait qu'après la guerre, finalement, ce curé de droite apparaît comme un résistant. Sur le fond, il va s'imposer. La relation va complètement changer avec l'évêque, parce que lui, l'évêque est un petit peu compromis dans la collaboration, donc ne va plus du tout faire obstacle
à sa carrière politique.
Et donc cette carrière politique démarre à 64 ans et va durer presque 30 ans. C'est ça qui est fantastique. Alors au début, il est élu sur son prestige personnel, sous l'étiquette des indépendants. Et puis en 1951, son propre parti, le Centre National des Indépendants et Paysans, décide de s'en débarrasser, parce qu'il est quand même déjà un petit peu vieux. Bon. Et du coup, il fait sa liste. Mais ce qui est génial avec le chanoine Kir, qui est inépuisable, c'est qu'il fait sa liste avec ses ennemis de toujours, c'est-à-dire d'une part les démocrates chrétiens, parce que lui a beau être catholique, il n'est pas démocrate chrétien, auxquels se sont alliés les ennemis de tout ce monde-là, qui sont les radicaux socialistes, donc la fine fleur des anticléricaux, libre-penseurs, francs-maçons du département. Et tout ça fait une excellente liste qui lui permet d'être réélu.
Et ça continuera encore, on ne va pas tout raconter parce qu'il y a d'autres personnages à découvrir, mais lui qui était farouchement anticommuniste finira par dialoguer avec l'Union soviétique et par devenir presque un interlocuteur de l'Union soviétique. Après le chanoine Kir, tiens, un autre personnage, alors lui on ne connaît pas forcément sa carrière politique, Jules Verne, lui aussi retournait sa veste.
Vous écoutez RTL, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'art de retourner sa veste, c'est un thème qui redevient forcément d'actualité tous les 5 ans à l'approche de l'élection présidentielle, et c'est le titre du livre de notre invité, l'historien et sociétaire de la curiosité, Bruno Fulini. Alors dans votre livre publié à librairie Vuibert, il y a des surprises, par exemple cet écrivain que nous sommes nombreux à aimer, Jules Verne. Alors lui, il a eu un destin politique. D'abord, de quel bord était-il ?
Alors Jules Verne, effectivement, on le connaît surtout comme écrivain. Il n'a pas eu une carrière nationale, mais il a voulu avoir une carrière locale. Et ce qui a absolument scandalisé sa famille, ses proches, ses amis, c'est qu'il était issu d'un milieu tout à fait conservateur. Il est né à Nantes, dans une famille très bourgeoise, croyante, à une époque où quand on était catholique, on était de droite, et quand on était de droite, on était plutôt monarchiste. Et voici qu'il se présente aux élections en 1888... sur une liste radicale, sur une liste de gauche. Et alors là, scandale. Scandale dans sa famille, scandale chez ses amis. On ne comprend pas comment cet homme qui vient d'un milieu de droite ose se présenter sur une liste étiquetée à gauche.
Donc c'est un homme, c'est un défenseur des progrès, Jules Verne. C'est-à-dire ce qu'on pouvait lire finalement dans sa littérature se retrouve dans son action politique.
Alors c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'à une époque, après sa mort au XXe siècle, on va avoir cette image que beaucoup ont encore d'un Jules Verne de gauche. Il est barbu, un petit peu comme tous les personnages politiques de son temps. Donc est-ce qu'il serait pas un petit peu franc-maçon ? Est-ce qu'il serait pas un petit peu radical socialiste ? Voyez, bon. Et comme effectivement il s'intéressait aux progrès techniques, aux machines, à toutes les applications de la science. Eh bien, on a l'idée d'un Jules Verne un peu scientiste, un peu progressiste, un petit peu, finalement, semblable aux hommes qui sont au pouvoir dans les années 1880. Or, c'est très différent. Jules Verne, si on le lit avec attention, est un homme qui, bien sûr, s'intéresse au progrès, mais qui se méfie beaucoup des applications que l'on peut tirer des découvertes de son temps. Regardez, par exemple, ce personnage du capitaine Nemo. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne préfigure pas plutôt les terroristes d'aujourd'hui, hein, qui s'empare d'un engin à moteur pour aller détruire leurs ennemis, plutôt que finalement un prophète sympathique du progrès technique ou du progrès en général. Jules Verne nous met en garde, en fait, et lui-même est très sceptique. Il s'intéresse aux découvertes scientifiques, mais il considère, et là il est un petit peu en décalage avec son temps, eh bien qu'elles n'apportent pas forcément mécaniquement le bonheur. C'est un écrivain assez lucide. Mmh. Jules Verne pensait être un écrivain pour adultes. Et au départ, même son rêve était d'écrire plutôt pour le théâtre. Donc, il va conquérir une notoriété mondiale avec ses romans, mais écrire pour les enfants n'est au départ pas du tout.
Il était dur d'ailleurs. Avec son propre fils, il a été très dur.
Oui, il n'aime pas particulièrement les enfants. Et puis, vous savez, quand vous écrivez, les enfants, ça fait du bruit, ça demande de l'attention, etc. Donc, lui avait trouvé la méthode. Il avait envoyé son fils dans une colonie pénitentiaire pour jeunes délinquants. Comme ça, ça l'avait remis un petit peu dans le droit chemin. Et puis, d'accord, lui, il avait la paix pendant ce temps-là. Donc, c'est un personnage assez rude, hein, assez dur, très sceptique, en fait, beaucoup plus réac qu'on l'imagine.
Ouais. Mais Bruno Fini, pour en revenir à ce qui nous anime ce soir, l'art de retourner sa veste, comment il devient un politique, Jules Verne ?
Eh bien, donc, le maire de sa ville, puisqu'il s'est installé à Amiens, est un sénateur, maire, qui s'appelle Frédéric Petit, et lui propose, eh bien, tout simplement, de figurer sur sa liste pour les municipales de 1888. Ce qu'il va faire, il va être élu, et à quatre reprises, il va être élu comme cela au conseil municipal d'Amiens. Alors, il aurait très bien pu se présenter sur une liste de droite, mais à l'époque, à Amiens, une liste de droite n'avait aucune chance d'être élu. Et donc, il s'est présenté sur une liste de gauche, tout en affirmant s'y présenter en tant que conservateur. Avec l'idée qu'il vaut mieux être conservateur sur une liste de gauche et être élu que d'être conservateur sur une liste de droite qui sera battue.
Parce que c'était quoi ? C'était son intérêt de siéger quand même dans certaines instances.
Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'il soit un élu passif. Une fois qu'il est élu, Jules Verne est très actif, en particulier, on dirait aujourd'hui, en matière culturelle. Hein, c'est-à-dire que le théâtre, le cirque d'Amiens, les spectacles, tout ce qui touche à l'intelligence, la bibliothèque, tout ça va être de son ressort, et il va être un élu très dévoué, très présent, mais alors pas républicain pour un sou. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il va avoir pour colistier et pour allié des gens qui le regardent quand même bizarrement. Alors, il y en a avec lesquels il va s'entendre, d'autres avec lesquels il va beaucoup moins s'entendre. Il a laissé même un poème assez méchant sur un certain Fiquet, conseiller municipal, successeur du maire, député, qu'il décrit comme le sectarisme fait homme. Donc, tout n'est pas rose. Mais Jules Verne est un homme de droite qui siège à gauche. C'est très particulier, mais ça s'explique aussi par le fait qu'on est dans de la politique locale et qu'en fait, dans toute élection municipale, le jeu est toujours d'avoir une caution de droite sur la liste de gauche, une caution de gauche sur la liste de droite. C'est ce rôle-là qu'il va jouer avec talent. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a laissé par contre des lettres, et en particulier une lettre à un ami, où il explique à quel point, finalement, il fait le grand écart politiquement.
Et il nous laisse un message politique à titre posthume. C'est un roman qu'on peut lire. On peut découvrir sa pensée politique, c'est lequel ?
Oui, c'est sans doute l'un des moins connus des romans de Jules Verne, qui porte ce joli titre, l'étonnante aventure de la mission Barsac. Et en fait, cette mission Barsac, c'est une mission parlementaire. Sont deux députés, Barsac et Baudrière, l'un exubérant, barbu de gauche, l'autre tout sec, très prudent, un peu austère de droite, qui se disputent pour savoir si les Noirs de l'Empire colonial peuvent devenir électeurs ou pas. Et donc, ils se disputent dans l'hémicycle si longuement que pour s'en débarrasser, la Chambre vote des crédits pour les envoyer étudier la question sur place. Et donc, il y a toute une aventure qui démarre là, mais ça permet à Jules Verne de montrer eh bien, son immense scepticisme aussi sur la chose parlementaire. Ce Jules Verne réac de gauche, de droite, est aussi un anti-parlementaire très moqueur.
Et maintenant, c'est l'histoire d'une girouette au Panthéon que l'on vous raconte, Victor Hugo, qui a lui aussi beaucoup navigué sur l'échiquier politique. Restez avec nous les curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Où est-ce que tu fais perdre du monde, l'environnement ?
Quoi ? Je suis un vrai défenseur de notre planète.
Dis que le réchauffement, c'est du bidon.
C'est du bidon.
Ça t'apprendra à retourner ta veste.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors, une dernière question, Jean-Pierre Raffarin. Après avoir soutenu Jacques Chirac, vous avez soutenu Nicolas Sarkozy et aujourd'hui Alain Juppé.
C'est encore la Fashion Week où tout le monde tourne et retourne sa veste. Moi aussi, je la retourne, mais de façon totalement désintéressée.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Traître, girouette, moulin à vent, opportuniste, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire l'art de retourner sa veste qui inspire aussi, vous venez de l'entendre, les Simpsons ou Laurent Gérard tous les matins sur RTL. En tout cas, on vous raconte l'histoire de certains de ces opportunistes, on va dire ça comme ça, c'est le terme le plus soft, avec l'historien Bruno Fulini. Après Jules Verne, on va écorner, si j'ose dire, un autre immense auteur français, Victor Hugo. Alors, on peut dire que son engagement politique donne un peu le tournis. Il naît en 1802, fils d'un général d'Empire. Alors c'est quoi ? C'est d'abord la monarchie qui l'inspire, c'est ça ?
Oui, parce que le romantisme en France a aussi une dimension contre-révolutionnaire au tout début. Après la chute de Napoléon, avec la Restauration, eh bien, dans le sillage de Chateaubriand, les jeunes auteurs romantiques ont la nostalgie du Moyen-Âge, de l'ancienne France, de tout ce qui a été brisé justement par la Révolution. Mmh. Et Victor Hugo va être le plus brillant représentant de cette jeune génération qui va célébrer Louis XVII, les Chouans, toute cette geste monarchique. Mais bien sûr, il va ensuite évoluer.
Mais ensuite, il va aussi garder une forme de proximité avec les puissants, avec les rois.
De toute façon, Victor Hugo a une vision. C'est un génie. Hein. Il s'agit surtout pas de salir le personnage.
Non,
c'est un homme qui a une vision très large de l'histoire de France et du pays. Et c'est pour cela qu'il va considérer qu'on peut aimer la monarchie en étant républicain. Ça n'est pas forcément contradictoire de son point de vue. Ce qui est compliqué avec Hugo, c'est qu'il y a d'une part son œuvre et il y a d'autre part une véritable carrière politique. C'est-à-dire qu'à plusieurs moments, il va siéger dans nos assemblées parlementaires. Et puis, plus tard, il ira dans l'exil, incarner la République après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Mmh. Ce qui fait que, finalement, il va devenir une des représentations de la République. Le Victor Hugo auquel nous pensons tous spontanément, c'est le Victor Hugo de la fin. Le sage, barbu, qui a incarné la République, qui est revenu, qui a siégé au Sénat. Bon, mais ce Victor Hugo-là, c'est le résultat d'une toute une vie et d'un parcours assez extraordinaire, puisqu'effectivement, il démarre du côté de la monarchie absolue, à un moment vers le bonapartisme, il est ensuite un petit peu annexé par Louis-Philippe et la monarchie de Juillet, qui va vraiment le combler d'honneur.
Il est choyé par Louis-Philippe, de quelle manière ?
Il est choyé, il faut dire que l'un des fils de Louis-Philippe, héritier du trône, Ferdinand, est un lecteur de Hugo, et donc va convaincre Louis-Philippe, au départ plutôt quand même méfiant, du génie de cet écrivain, de ce poète, et Hugo va d'abord rentrer à l'Académie française, et il va même être nommé à la Chambre des Pairs. C'est un honneur colossal, parce qu'à l'époque, dans le Parlement de l'époque, la Chambre des Pairs, c'est un peu l'équivalent de la Chambre des Lords aux États-Unis.
En Grande-Bretagne. Il devient vicomte, vicomte.
En fait, normalement, il faut être aristocrate pour siéger à la Chambre des Pairs, lui se fait appeler Vicomte Hugo, parce que son père, général d'Empire, était comte de l'Empire. En fait, le titre n'était absolument pas héréditaire, il n'avait pas droit à ce titre de vicomte, et donc Louis-Philippe ferme les yeux. Donc voici notre pseudo-vicomte Hugo qui se met à parler, à siéger, sous le regard des marquis et des ducs de la vieille noblesse qui siègent à la Chambre des Pairs.
Et quand la République est proclamée, on est en 1848, qu'est-ce qu'il fait, la Victor Hugo ? Défend quoi ?
Au départ, il est bien embêté. Alors, lui espère imposer l'idée d'une régence, donc une situation un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que Louis-Philippe doit partir, la République est proclamée, Victor Hugo, au départ, n'est pas du tout républicain. Donc, il va petit à petit se déclarer républicain, mais en opposant deux républiques. Hein. Il dit deux républiques sont possibles. Il va être élu, parce que par contre, il est très populaire à Paris. Il va être élu en juin 1848 représentant du peuple. L'ancien membre de la Chambre des Pairs devient un élu du suffrage universel. Et puis, au départ, il siège à droite. Il siège avec les conservateurs. Il va même soutenir Louis-Napoléon Bonaparte lorsque celui-ci se présente à l'élection présidentielle. Hugo est persuadé d'ailleurs que Louis-Napoléon Bonaparte sera choisir en lui soit un chef du gouvernement, soit, à défaut, un grand ministre de l'instruction publique. Bon, évidemment, aucun de ses rêves ne se concrétisera, donc il va y avoir un petit peu un divorce avec Louis-Napoléon Bonaparte. Et puis surtout, Hugo, avec tous ces changements, hein, est quand même fidèle à un certain nombre d'idées, et en particulier la laïcité.
Oui, parce que dans votre livre, L'art de retourner sa veste chez Weber, vous dites, il a été tour à tour royaliste, bonapartiste, orléaniste, républicain, de convenance, de conviction, puis prophète d'un socialisme humanitaire. Les idées auxquelles il est resté fidèle, c'est quoi dans toute cette carrière politique ?
Il y a trois grandes idées qu'on trouve à tous les moments de sa vie, auxquelles il est absolument fidèle. D'abord, l'opposition à la peine de mort. Il a toujours été opposé à la peine de mort. D'autre part, opposition à la censure. Normal, vous me direz, pour un écrivain, mais chez lui, ça prend une grande vigueur. Et puis, en particulier, cette censure, elle ne doit surtout pas être exercée par ce qu'il appelle le parti prêtre. Hein, il est croyant, il n'est pas anti-religieux. En revanche, il ne veut pas que l'Église, en particulier l'Église catholique, exerce un pouvoir. Et c'est sur cette question qu'il va totalement rompre avec la droite, avec les conservateurs, en 1850, quand la loi Falloux veut donner le contrôle de l'université à l'Église.
Prochain portrait, celui de Mirabeau, un noble qui renie la noblesse, mais qui sera ensuite chassé du Panthéon par les révolutionnaires.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'art de retourner sa veste en chanson. C'est vrai que ça passe toujours un petit peu mieux.
Oui, c'est plus fluide.
C'est la mise en nom de notre réalisateur André Facetta. C'est aussi le thème de notre curiosité sur RTL et le titre du livre de notre invité, l'historien Bruno Fulini. Alors c'est une icône révolutionnaire dont on va parler, mais son histoire est quand même bien plus complexe qu'il n'y paraît. Honoré Gabriel Rigetti, comte de Mirabeau. Il a eu une carrière fulgurante, mais c'est d'abord un grand orateur, Bruno.
C'est un immense orateur, c'est un tribun né. C'est d'abord un homme de grande culture, immense culture, un énorme lecteur. Donc il a un vocabulaire d'une très très grande étendue. Il est capable de rendre toutes sortes de nuances. Et puis, il y a cette faconde, cette truculence. On l'avait surnommé la torche de Provence. Alors certes, il est né du côté d'Orléans, mais il appartient à la noblesse provençale, la torche de Provence à laquelle on avait opposé la chandelle d'Arras, qui était Robespierre et son petit filet de voix. Mirabeau, c'est un tonnerre, c'est un torrent. Toutes les métaphores qui évoquent sa prise de parole.
Ses paroles surnommées l'ouragan, c'est
l'ouragan,
ça
voilà. Ça renvoie toujours à des éléments, à des forces naturelles. Il y a quelque chose d'irrésistible, d'irrépressible chaque fois que Mirabeau entre en scène.
Alors, il naît en 1749 dans un beau château près d'Orléans. Donc, c'est un noble. Hein, on a dit son nom, Sidonie, Honoré Gabriel Rigetti, comte de Mirabeau. Comment naissent ces idées révolutionnaires ?
Alors, au départ, il y a une opposition avec son père, qui est un noble très savant, très intelligent, mais absolument intraitable, un drôle de père. Et donc, il y a un conflit extrêmement rude entre le père et le fils. Par ailleurs, l'ouragan va se signaler dans sa jeunesse par une série de frasques absolument sans précédent. On ne souhaite à aucun père d'avoir un fils aussi débordant d'énergie.
Au départ, ça se termine en prison, même ?
Alors, plusieurs fois, ouais. Il va faire le tour de France des prisons, le château d'If, le fort de Joux, le château de Vincennes, dire, toutes les prisons d'Ancien Régime s'enorgueillissent d'avoir à un moment ou à un autre abrité le jeune Mirabeau, parce que d'abord c'est un libertin, hein, donc il saute sur tout ce qui bouge. Alors c'est curieux parce qu'il est très très laid, mais il a une espèce
de faim, de force.
Il séduit. Hein,
séduit par le verbe.
Il séduit parce qu'il séduit. Et par exemple, lorsqu'il est tout jeune, on se dit on n'arrivera jamais à en faire un prêtre, on va l'envoyer dans l'armée.
Là,
il va pouvoir.
C'était osé.
Mais Talleyrand sera bien évêque. Dans le cas de Mirabeau, on l'envoie dans l'armée. Oui. En se disant, voilà, là, il va se dépenser, il va se donner. Simplement, il a un officier supérieur qui est amoureux d'une jeune fille et qui part avec la jeune fille, Mirabeau. Donc évidemment, il va avoir quelques tracasseries auprès de son supérieur hiérarchique. Oui. Du coup, il déserte. Et donc, le père obtient une lettre de cachet, mais tout simplement pour mettre fin au scandale. Et c'est ainsi que notre Mirabeau se retrouve une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois emprisonné. Et c'est très souvent, un petit peu comme le marquis de Sade, c'est souvent en prison pour s'occuper qu'il écrit.
Il écrit.
Et alors, il écrit toutes sortes de choses, et en particulier un certain nombre d'essais contre les abus de l'État, les abus du pouvoir, qui vont faire de lui, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi un fils des Lumières, ça va faire de lui un des théoriciens de la liberté dans cette France des années 1770-1780.
Alors, on va comprendre pourquoi lui aussi a retourné sa veste. 1789, il renonce à son titre de comte, d'une certaine façon. C'est un noble, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'essaye d'accélérer un peu. C'est un noble qui renie et qui choisit le tiers-état. On lui doit, tiens, par exemple, le célèbre « Nous sommes ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Tiens, ça, c'était quand ? C'était
Alors,
à quelle
ça,
occasion, cette
c'est
phrase-là
un moment... très particulier de notre histoire, c'est vraiment la naissance du Parlement, c'est le 23 juin 1789. Donc il a été élu aux États généraux, qui sont en train de vouloir devenir une véritable assemblée parlementaire sur le modèle anglais. Les États généraux tiennent séance à Versailles, au château, en présence du roi. Et puis là, le roi trouve que ça devient un petit peu fatigant. D'ailleurs, il y a des troupes qui commencent à arriver un petit peu dans les alentours pour éventuellement disperser ces élus. Et puis à la fin d'une séance, on envoie le marquis de Drebrézé, qui lui n'est pas un élu, c'est très important. C'est le maître des cérémonies du roi, qui vient rappeler à ces élus qui sont encore en train de discuter et qui vraiment sont fatigants, eh bien qu'ils ont à écouter les ordres du roi et donc à s'en aller. Il ne faut pas dire ça à un personnage comme Mirabeau. Et donc Mirabeau se dresse devant Drebrézé, et Drebrézé en plus a gardé son chapeau sur la tête, l'épée au côté, puisque lui est noble et qu'il s'adresse aux élus du tiers-état. Manque de chance, dans les élus du tiers-état, il y a un noble auto-déclassé en la présence du comte de Mirabeau qui le renvoie dans ses buts. Alors la phrase que vous avez citée dans tous les manuels scolaires, en fait c'est un condensé, il fait une phrase beaucoup plus longue, beaucoup plus, ancien régime en fait, mais qui renvoie dans ses buts ce marquis de Drebrézé qui, nous dit l'historien Michelet, est parti à reculons. C'est-à-dire que pour la première fois, comme il le faisait devant le roi, le maître des cérémonies recule devant la souveraineté du peuple, incarné non plus dans un monarque, mais dans une assemblée élue. Mmh. C'est la naissance du Parlement en France.
Et quelques semaines plus tard, pourtant, le 4 août 1789, lors de l'abolition des privilèges, Mirabeau va retourner sa veste. Quel choix surprenant il fait, Bruno Fulini ?
Oh, le 4 août encore, c'est juste un commentaire un petit peu dissonant, en disant, ben voilà bien les Français, ils discutent pendant des mois sur des vétilles, et puis ils envoient valdinguer l'ordre ancien en quelques heures, en une nuit. Mais ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de ses voisins, mais à l'époque, ça passe. C'est-à-dire que, petit à petit, on va avoir un Mirabeau un petit peu plus modéré. Alors, il a la très bonne idée de mourir à l'âge de 42 ans, ce qui fait que lorsqu'il meurt, il reste ce qu'il a été, hein, vraiment le pivot de la révolution 1789.
Oui, puisqu'on est en 1791.
C'est cela. Et du coup, eh bien, c'est pour lui que l'église Sainte-Geneviève devient le Panthéon. C'est pour recueillir son corps, et il est le premier de ces grands hommes auxquels la patrie marque sa reconnaissance.
Et il en sera chassé quelques années après. Pourquoi ?
Parce que environ un peu plus d'un an plus tard, on découvre l'armoire de fer, donc une sorte de placard secret où Louis XVI cachait sa correspondance secrète. Mmh. Et là, on se rend compte que Louis XVI, à un moment, trouvant que cette révolution devenait inquiétante, charge Lafayette d'aller payer quelqu'un chez les révolutionnaires pour prendre les choses en main et pour calmer la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, il touchait de l'argent de Louis XVI, l'homme qui a créé le Parlement, la démocratie en France. Et c'est pas absurde, parce qu'en fait, le modèle de Mirabeau, c'était une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, aucunement la République. Mmh. Simplement, quand on se rend compte de cela, eh bien, les choses ont changé. C'est au moment de la Convention, la Révolution est devenue encore plus dure, et donc on va enlever Mirabeau du Panthéon, on va briser son buste, on va jeter son corps à la fosse commune, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas plus où se trouve son corps. On a même tenté des fouilles pour le centenaire de la Révolution en 1889, sans résultat. On a juste son masque mortuaire et je vous confirme qu'il était vraiment affreux.
Merci beaucoup Bruno Fellini. L'art de retourner sa veste, de l'inconstance en politique, c'est publié à la librairie Vuibert. On vous le conseille, lisez ce livre, surtout en ce moment.
Vous écoutez RTL.